Ça fonctionne un peu, c'est Jésus rentre dans une église, fait des observations et après ça, il donne un rapport. Et dans ces églises-là, il va leur parler des forces de ces églises-là, les faiblesses. Il va aussi faire des recommandations et à quelques églises, il va faire des menaces. Puis, il va toujours terminer avec une promesse à celui qui vaincra. Alors, ces églises-là, ces sept églises-là sont en Turquie, et puis c'était dans le premier siècle, imaginez-vous, le premier siècle après la mort de Jésus-Christ, c'était les premières décennies, là, les premières églises qui ont été formées. Alors, déjà là, on voit que sur les sept églises, il y en a cinq à qui Jésus fait des reproches, et il y en a seulement deux à qui il ne fait pas de reproches. Et c'est vraiment différent de nous en 2020. La façon dont nous, on a tendance à évaluer une Église qui est bonne, puis de la manière que Jésus voit ça, c'est vraiment différent. C'est pour ça que comme Église, on a vraiment intérêt à lire ces deux chapitres-là de l'Apocalypse, puis regarder pour pouvoir dire, OK, à Castleman, c'est où est-ce qu'on se situe là-dedans, au juste? Parce que nulle part dans ces églises-là, Jésus va dire, ah, non, ça, c'est pas fort comme église, parce que la grosseur du ben n'est pas assez gros en avant. Alors, je me souviens, un pasteur d'une très grosse église à Ottawa, lui, disait, quand il visitait les églises, s'il voulait savoir si c'était une bonne église, il rentrait dans l'église, puis il regardait la grosseur de la batterie. Plus t'es grosse, plus il disait ça, ça marche, ça c'est bouillant pour le Seigneur. Lui évaluait l'Église par la grosseur de la batterie. On ne dit pas ici que la musique n'est pas importante, que les instruments ne sont pas importants, mais pour Jésus, ce n'est pas une priorité. Et Jésus, nulle part, dans ces sept églises-là, il revient et il ne dit pas, ben, il me semble qu'il manque de programme. Ou ben non, que c'est un peu petit. Ou le budget. Il n'est pas assez gros, etc. Jésus ne parle pas de ces choses-là. Et jusqu'à date, on a visité quatre églises, et ce matin, je vais vous inviter à visiter une cinquième église en compagnie de Jésus-Christ. Alors, avant ça, on va prier. Seigneur, merci pour ces textes-là qui peuvent vraiment nous parler comme église, mais aussi comme individu. Il y a tellement de vérité là-dedans qu'on peut s'approprier, puis on peut s'aligner avec toi, avec ta pensée, avec ton cœur. Qu'est-ce qui est important pour toi devrait devenir important pour nous? Pas seulement comme Église, mais aussi comme individu. Seigneur, si tu n'interviens pas ce matin par ton Esprit Saint et ta parole, c'est une perte de temps totale. Je t'en supplie, Seigneur, prends ta parole et parle à nos cœurs. Aligne ce qui est désaligné, redresse ce qui est courbé, guéris peut-être ce qui est malade. Ceux qui ont besoin d'être exhortés, exhorte-les, Seigneur. Ceux qui ont besoin d'être consolés, console-les. Ceux qui ont besoin d'être édifiés, édifie-les. Seigneur, c'est ton œuvre. Et comme le chant qu'on vient de chanter, elle disait, j'ai besoin de toi. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi pour notre salut, mais aussi pour notre marche. Garde-nous du malin. Aide-nous à t'aimer, à te servir, à croire en toi, au-delà des circonstances. En Jésus-Christ, amen. Alors, jusqu'à présent, on a fait en église quatre visites d'église. On est allé à Éphèse, ici. Si vous vous rappelez bien cette église-là, là, mon ami, une église-là vraiment solide. Lisez la lettre de Jean à Éphèse, là, à tous les niveaux, du discernement. Eux autres étaient capables de discerner le mensonge dans cette église-là. Puis Jésus dit que c'est très bien. C'était une église qui œuvrait. C'était une église qui a eu des difficultés et qui ont persévéré. Puis là, on se dit, waouh, qu'est-ce que tu veux demander de mieux? Alors, quand on est sorti d'Éphèse, Jésus il dit, il y a une chose par contre. On dit, mais c'est quoi? Tu as abandonné ton premier amour. Alors, ce qu'on apprend avec Éphèse, c'est que ce n'est pas juste toutes les choses qu'on fait ou qu'on enseigne, mais une question relationnelle ici, entre Christ et nous. Pas seulement comme Église, mais comme individu. Ce n'est pas nécessairement émotionnel, mais c'est relationnel. Ce qu'on apprend avec Éphèse, c'est qu'on ne veut pas tomber dans les habitudes. C'est comme un couple, hein? C'est le défi qu'on a les plus vieux. Est-ce que ça devient routinier, répétitif, puis on ne s'apprécie plus, etc.? Mais il faut maintenir cette flamme-là entre le mari et la femme, et ça demande de l'effort, ça demande des intentions, de poser des gestes concrets pour maintenir cette relation-là d'amour entre le mari et la femme. Et c'est la même chose entre nous et Christ, pas seulement comme Église, mais comme individu. On a appris ça à Éphèse. Après ça, de Éphèse, si vous vous rappelez bien, on est allé à Smyrne. Oh, Smyrne ici, là, aucun reproche. C'est une église, Jésus dit, « Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Quand on est rentré à cette église-là, là, mon ami, ça ne tapait pas à l'œil, ça n'avait pas l'air riche, c'était pas fort, c'était pas évident, mais il y avait de quoi de relationnel entre les individus, entre cette église-là et Christ qui plaisait au Seigneur. Le Seigneur ne leur a pas fait aucun reproche, aucun reproche. C'est une église qui a souffert énormément ici. Historiquement, Smyrne, là, beaucoup de problèmes. Alors, ce que ça nous enseigne, c'est que ce n'est pas parce qu'on est chrétien que nos problèmes s'en vont. Et des fois, plus on est proche de Christ, et des fois, plus on en a, des fois. Ce n'est pas toujours le cas. Après ça, de Smyrne, on est allé faire un tour à Laodicée. Aïe. Si vous vous rappelez Laodicée, là, ça c'est Laodicée, c'est les gens qui disaient, « Oh, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Ça, c'est caractéristique, c'est les individus, ça, qui sont comme autosuffisants. Tout va bien. Ils ont toujours l'air au-dessus de leurs affaires, tout va bien, sont en contrôle, etc. Et Jésus... Ces gens-là, à l'Odyssée, là, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. En plus de ça, ils étaient ignorants de leur situation. Et ça, ça arrive des fois. J'ai un de mes amis qui vient de passer par un divorce. Et puis, quand je lui ai parlé, je lui ai dit, as-tu vu des signes? Il dit, pas en tout. Il dit, moi, je pensais que tout allait bien. Il était auto. Lui, ça allait bien. Puis, il pensait que sa femme allait bien. Puis, ça a duré des années de même. Puis, à un moment donné, il en a pété une. Puis, c'était fini. Alors, le divorce vient de se conclure deux semaines passées, ça a duré un an de temps. Et lui était certain que tout allait bien. Laodicée, ce qu'on apprend là, c'est qu'un sentiment d'autosuffisance, souvent, est accompagné de l'ignorance de notre vrai état. Et c'est triste, ça, c'est vraiment triste. Jésus leur a fait la menace suivante, « Je vais te vomir. » C'est très graphique comme langage. Mais la solution, par contre, c'était « Repens-toi. » Qu'est-ce que ça veut dire le mot « repentance » ? La repentance, c'est un changement dans ma tête, dans ma pensée, qui se concrétise par un changement dans ma vie. S'il n'y a pas de changement dans la vie d'un individu, c'est qu'il n'y a pas eu cette repentance-là. Et cette repentance-là, associée avec la foi en Jésus-Christ, donne la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la présence du Saint-Esprit dans une personne, on va en parler un peu plus tard, qui change tout. Ça ne veut pas dire que ça améliore tout parfaitement, mais ça fait des changements. Alors, on est allé à Laodicée, on a été... vraiment choqué de ce qu'on a vu ici. De Laodicée, on est allé à Philadelphie. Oh, ça fait du bien. Philadelphie, c'est la deuxième église à qui Jésus fait aucun reproche. Aucun. Le mot Philadelphie veut dire amour des frères. Quand on est allé à cette église-là, on a souligné ça, c'est qu'il y avait une église où il y avait un amour entre les frères et les sœurs. Alors, Jésus, ce qu'il commande à cette église-là, c'est que c'était une église ici que c'était la parole qui était l'autorité. Parce que tu as gardé ma parole. Ce n'est pas une église qui était dirigée par les traditions des gens, des hommes, mais c'était une église qui était dirigée par la parole de Dieu. Et je dirais que l'exemple le plus frappant d'une église ou d'une dénomination qui est dirigée par les traditions, c'est le catholicisme. Ils sont complètement soumis aux traditions. Et je me souviens, j'ai suivi au moins deux catholiques, moi, pendant 2 ans de temps, à faire des études. Puis je me souviens d'un, il disait, « Oui, mais Sylvain, la tradition, c'est au-dessus de la parole de Dieu. » Et c'est là qu'on ne pouvait plus aller nulle part. Où est-ce que tu veux qu'on aille? Si ta tradition est au-dessus de la parole de Dieu. Tandis qu'un chrétien, lui, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est ça qui est le point. C'est ça qui est sa boussole pour évaluer au niveau moral et au niveau doctrinal. Et c'est ce que Jésus aimait de Philadelphie. La parole était au centre. C'était une église aussi qui n'avait pas beaucoup de puissance. Donc, c'était une église qui était dépendante. Alors, si vous vous sentez souvent faible, fragile, ce n'est pas une mauvaise chose. La faiblesse et la fragilité dans vos vies, que ce soit au niveau émotif, physique ou quoi que ce soit, vous amène à dépendre du Seigneur. Et au contraire, je dirais même que c'est une bénédiction. Alors, si vous êtes dans un moment présentement où vous vous sentez faible et fragile, eh bien, ce n'est pas que vous ne voulez pas aller mieux, mais ne voyez pas ça d'une façon négative. Seigneur, je me sens faible et fragile, un peu comme la Philadelphie, j'ai besoin de toi. Et c'est ça qui va être votre force, cette dépendance-là. C'était une église à Philadelphie, là, ils ont souffert pas mal aussi, mais ils ont persévéré. La souffrance vous donne l'occasion de persévérer. Est-ce que tout le monde ici, on peut commencer un marathon? On peut-tu tous le commencer? Est-ce qu'on peut tous le finir? Ah, elle a dit, moi, je ne peux même pas le commencer. Même en marchant, Anne, tu peux le commencer. Pierre te prendra sur ses épaules. Mais c'est de le finir. Alors, la marche chrétienne, il y a des périodes dans la vie où c'est extrêmement difficile. Et là, c'est dans ces moments-là qu'on persévère. On persévère. Alors, cette église-là, Philadelphie, était reconnue pour sa persévérance et aussi l'espérance. C'est à cette église-là que Jésus a dit quoi? Je viens. Et on s'était posé la question, est-ce qu'on y croit? Est-ce que vous y croyez? Posez-vous la question, est-ce que j'y crois que Jésus-Christ revient bientôt? Si oui, ça fait un changement dans la vie. Ça fait un énorme changement. L'espérance du retour de Christ change beaucoup de choses dans ma vie. Alors, ce matin, je vous invite à visiter notre 5e église. SAP. Church of the Walking Dead. Ça, c'est l'image que mon ami Gilles a trouvée. Je vous invite à visiter SAP et qu'est-ce qu'on va apprendre de SAP? Ce matin, on va se limiter à un verset. C'est le verset de l'église de SAP qui est le thème pour moi. Là. C'est là-dessus que je veux me concentrer ce matin. Sardes était une ville en Turquie. Aujourd'hui, ça s'appelle Sarthe, S-A-R-T. Et on appelait Sardes du temps de Jean en souvenir de la sardoine. Vous savez, c'est quoi la sardoine? C'est une pierre précieuse. Oui, c'est une pierre précieuse. Alors, il y avait beaucoup de sardoine dans la région. Alors, on a appelé cette ville-là Sardes. Et vous savez ce que les gens faisaient avec la sardoine? Ils s'en servaient pour éloigner les démons. Alors, il y avait toutes sortes de pratiques occultes à Sardes. Il y avait une grosse industrie de bijoux avec la sardoine et de teinture et de textile. Ils avaient un culte à Artémis. Déjà, ce temps-là, 2000 ans passés, il y avait la réincarnation. Artémis. Alors, ceux qui croyaient à Artémis, eux autres croyaient qu'après leur mort, ils réincarnaient. Mais au temps de Jean, la ville de Sardes était devenue une ville morte. Même si elle avait eu un passé très glorieux, c'était une ville morte. L'église de Sardes, on ne sait pas c'est qui qui a fondé cette église-là. On n'a aucune idée c'est qui, on n'a pas trouvé. Tout ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a des archéologues qui ont fait des recherches dans cette région-là, en Turquie, puis ont trouvé des vestiges d'une ville, d'une église chrétienne qui a existé là longtemps passé. Quand vous lisez chapitre 3 de l'Apocalypse, l'église de Sardes, il n'y a aucune mention de fausses doctrines, d'immoralité, de faux docteurs, si on compare aux autres églises. Mais c'est quoi la grande leçon de Sardes? Je vous le dis, ça va frapper fort. Ce n'est pas moi qui va frapper fort, c'est le texte. Alors, on va tourner nos Bibles dans le chapitre 3 et versets 1 à 6. Et ce matin, on va se concentrer sur le verset 1, qui est le thème de Sardes. Alors, je lis. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Regardez les lianes. Regardez les lianes. Regardez sa belle robe blanche. Sera vêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Wow! Alors, je vais commencer par une illustration. L'illustration suivante, les histoires que je vais vous raconter, illustrent très bien qu'est-ce que c'était l'église de Sardes. Et c'est une histoire vraie qui s'est passée longtemps passée sur l'océan Antarctique. Alors, il y avait un bateau qui flottait, bien entendu, sur l'océan, et il y a un autre bateau qui s'est approché, et plus il s'approchait, puis plus il trouvait qu'il y avait quelque chose d'étrange avec ce bateau-là. Alors, ils ont décidé, le bateau ici a décidé de s'approcher et d'accoster. Les marins de ce bateau-là sont allés sur l'autre bateau qui avait l'air vraiment étrange. Et la découverte qu'ils ont faite était stupéfiante. Savez-vous ce qu'ont trouvé les marins quand ils ont débarqué sur l'étrange bateau? Ils ont découvert l'équipage du bateau, les marins, le capitaine. Le capitaine était à son poste. Les marins étaient tous à leur poste, congelés, morts congelés, debout à leur poste. L'histoire ne nous dit pas comment ça se fait qu'ils sont morts congelés sur place. Alors, là, ils ont fait des recherches sur le bateau, puis ils ont trouvé le livre de bord. Et il semblerait, selon les dernières notes du livre de Baran, que ce bateau-là flottait sur l'océan Antarctique depuis 13 ans, avec un équipage à leur poste, congelé, mort. De loin, ce bateau-là, est-ce que ça avait l'air normal? Oui, comment est-ce qu'ils en sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas? C'est quand ils se sont approchés. Et cette illustration-là représente bien l'église de Sardes. De loin, ça a l'air normal, mais plus tu t'approches, plus tu vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ginette, lis-moi ta traduction. Elle a une traduction un peu différente. Les mots sont différents. Le verset 1, s'il te plaît. Tu as la réputation d'être vivant et tu es mort. Ça frappe, ça. Toute la semaine, moi, ces textes-là là, me roulaient dans la tête. Puis je me disais, mon ami, c'est sérieux? La réputation où tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Alors, c'est important que comme Église et comme individu, on médite sur ce texte-là. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça? Alors, la dernière chose qu'on veut là, comme individu, là, c'est d'être comme cette illustration-là, flotter dans la vie, avoir l'air d'une chose, mais de ne pas l'être. Avoir l'air d'être vivant, mais dans le fond, on est mort. C'est pas ça qu'on veut comme Église. Et c'est certainement pas ça qu'on veut comme individu. Alors, on retourne à notre verset 1, la deuxième partie du verset 1. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Qui connaît les œuvres ici? Qui est le je? C'est Jésus-Christ. Et on a fait ces sept églises-là les jeudis soirs. Et après avoir fait les sept églises, je me souviens d'avoir posé la question au groupe, quel est le texte qui vous a frappé le plus dans ces sept églises-là? Et mon ami Yvon-Pierre, il dit, moi, il dit, c'est l'expression « je connais ». Je connais. Cette expression-là, là, c'est simple, hein, mais c'est-à-dire, c'est inutile de se cacher, parce que Dieu le sait. Dieu connaît. Dieu connaît nos œuvres. Dieu connaît plus que nos œuvres, il connaît nos soucis. Il connaît vos fardeaux. Il connaît vos inquiétudes. Il connaît. C'est quoi qui vous pèse dans le cœur? Dieu le connaît. Connaît vos souffrances physiques, émotives, les souffrances de vos âmes, vos doutes. Il les connaît, vos doutes. Ça ne donne rien à quelqu'un. Moi, l'expression « je connais », pour moi, c'est une invitation à être transparent devant Dieu. Ça ne donne rien de cacher quoi que ce soit devant Dieu. Quand vous priez, là, sortez-les ce qu'il y a dans votre cœur. Restez pas ça jamais en dedans, là. Il faut que ça sorte. Tout ce qui vous pèse doit sortir parce que Dieu connaît. Dieu connaît. Jésus dit, « Venez à moi. Vous êtes venus, je crois que vous êtes venus à Christ à un moment donné dans votre vie. » Mais ce n'est pas une fois qu'on vient à Christ, mais c'est constamment, pas pour être sauvé constamment, mais je viens à lui sur une base régulière. Jésus dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigué et chargé, je viens à lui. Je suis venu à lui pour le pardon de mes péchés, pour avoir la vie, mais je continue à aller à Christ. Continuellement à aller à Christ. » Et les mots suivants, « Je connais tes œuvres » et c'est le texte là-dessus que je veux ruminer avec vous ce matin. « Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Wow! Quel regard perçant de Jésus-Christ! Alors, nous, on est allés à Sardes, là, avec le Seigneur, puis on n'a rien vu de ça. Puis le Seigneur nous a dit, puis on dit, « Seigneur, qu'est-ce que tu dis de l'église de Sardes? » Et il nous dit, « Ben, tu sais quoi? Cette église-là, là, ça a de l'air vivant, mais ils sont morts. Morts. Comme le bateau que j'ai parlé tantôt. Morts. » Sardes symbolise toutes les églises mortes et les hypocrites des derniers 2000 ans. Et il y a plusieurs églises chrétiennes que la seule chose qu'ils ont de chrétien, c'est le nom qu'il y a sur le building. C'est ce qui fait d'une église une église vivante. C'est la vie des gens à l'intérieur de l'Église, mais surtout les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis et dimanche après-midi. C'est ça qui fait la différence d'une vraie Église. C'est la vie des gens, la vie de Christ au travers des gens. Ce n'est pas toute une série de connaissances doctrinales dans ma tête. Ce n'est pas une mauvaise chose, les connaissances bibliques, mais si ça ne rentre pas dans mon cœur, ça ne change rien. Ce n'est pas la grosseur, comme j'ai dit, du ben en avant, ou si on tape les mains, puis on braille à plus finir, puis on se jette à terre, puis etc. Ce n'est pas ça qui fait la vie. C'est Christ en nous qui fait la vie. Ce n'est même pas la longueur des prières que je peux faire, quoique la prière, c'est important. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il reprochait aux pharisiens? Vous faites par apparence des longues prières. Il n'y a rien, c'est rien de mal de faire des longues prières, mais ce n'est pas ça qui fait, qui est un indicateur de la vie. Alors, tournez vos Bibles dans 1 Jean 5,12. 1 Jean 5,12. Puis après ça, j'ai quelque chose pour les petits-enfants. 1 Jean 5,12. Tiens, Yvon-Pierre, tu veux-tu me lire ça à haute voix, s'il te plaît? Oui. Je sais que tu passes près de vivant et tu es mort. Ces gens-là n'avaient pas le Fils. Ils avaient peut-être une profession verbale, mais ils n'avaient pas le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas des fois dans nos vies, là, c'est pas ça qui fait la... Avoir le Fils, je vais en parler plus tard. Alors, je vais vous donner, pour les, je vais penser aux enfants, aux petits-enfants, je me dis, qu'est-ce que je vais faire pour eux autres? Eh bien, les enfants, je vais vous poser des questions, OK? Alors, les enfants, est-ce que je suis un guitariste? Ou un musicien? Non? Comment tu sais ça? J'ai une guitare. Est-ce que je suis un guitariste? Eh bien, ceux qui me connaissent vont dire non. Tiens, je vous en pose une autre, les enfants. Vous savez c'est quoi? C'est un tablier. Est-ce que je suis un cuisinier? Est-ce que je suis un cuisinier? Pourquoi tu dis non? Je pose la question, est-ce que Ginette, je suis un cuisinier? J'ai l'air d'un cuisinier, mais je ne suis pas un cuisinier. Ginette le sait, et mes enfants surtout. Quand mes enfants étaient à la maison, puis que Ginette, des fois, elle devait partir pour aider ses parents ou mes parents, c'est moi qui faisais les lunchs, les enfants disaient, oh boy, c'était pas une bonne idée. Hey! Est-ce que je suis bon avec l'informatique? Est-ce que je suis bon avec l'informatique? Yvon-Pierre? Mais j'ai un ordinateur. Est-ce que c'est parce que j'ai un ordinateur que je suis bon avec l'informatique? Non. J'ai pas fini. J'en avais une pour Mathieu. C'est ça. J'en avais une pour Mathieu. Alors, regarde bien ça. Est-ce que je suis un menuisier? Est-ce que je suis un menuisier? Qui le serait? Mathieu. Mathieu le serait. Parce que Marc et Mathieu, ils m'invitent à aller à leur ferme habituellement, c'est quand il faut détruire des choses. J'ai remarqué ça. Mais quand c'est le temps de construire, Mathieu, il est d'une patience avec moi incroyable. Par contre, est-ce que je suis un joueur de badminton? Pourquoi vous le savez? Parce que vous me connaissez. Parce que vous me connaissez. Et la dernière, est-ce que je suis un joueur de tennis? Seulement ceux qui me connaissent le savent. Oui, je suis un joueur de tennis. Tout ce que j'ai montré tantôt, là, C'est, j'avais l'air d'un cuisinier, mais je n'étais pas un cuisinier. Qui le savait? Ma femme. J'avais un ordinateur, j'ai l'air de quelqu'un qui connaît l'informatique, mais qui le savait? Yvon Pierre, je l'ai tellement hérité avec les années, lui. Je vais donner un autre exemple. Un musicien. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un musicien, mais quoi que j'avais une guitare, j'aurais pu m'asseoir au piano et demander est-ce que je suis un pianiste. Puis ceux qui ne me connaissent pas auraient dit oui, peut-être, on ne sait pas. Alors, le point, c'est l'Église de Sardes, c'est l'Église des apparences. Elle avait l'air d'une chose, mais elle ne l'était pas. Et la dernière chose au monde qu'on veut comme individu et comme Église, c'est d'avoir l'air d'une chose et de ne pas l'être. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. La différence entre la vie et la mort, c'est radical. Tu ne peux pas avoir un contraste plus fort. Vivant, mort. C'est la même chose qu'entre le jour, la nuit. Entre l'été, l'hiver, la lumière et les ténèbres, les contrastes sont radicaux. Vivant, mort. La vie de Christ, celui qui a le Fils, a la vie. La vie de Christ dans nos vies change tout. Et ça se manifeste, ça. Cette vie-là, elle se manifeste dans ma vie de couple. Ça change quelque chose dans ma vie de couple. Couple, que Christ soit présent. Est-ce que ça veut dire que la vie de couple va être parfaite? Non, mais ça change de quoi? Dans ma famille, ça change de quoi? La vie de Christ en moi change de quoi dans la façon dont j'éduque mes enfants? Dans mes choix de vie, dans mes finances, etc. Avoir le Fils, c'est avoir quoi dans ma vie? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une espèce de liquide ou une force quelconque, c'est une personne. Christ en moi, c'est avoir le Saint-Esprit dans ma vie et ça fait des changements dans ma vie d'une façon radicale. Une des premières choses qu'on voit chez un chrétien qui est né de nouveau, que j'ai vu, encore Martin, quand je l'ai vu, vraiment, lui, avec lui, là, c'est comme avec mes trois enfants. J'étais là quand Ginette a accouché. Martin, c'est la même chose. Je l'ai vu naître devant moi. Puis une des premières choses que j'ai vues chez Martin, c'est le péché. Comment est-ce qu'il était devenu sensible au péché? Habité par le Saint-Esprit, avoir la vie, ça me rend sensible au péché. Est-ce que ça fait que je ne pêche plus? Non, ce n'est pas ça. Ça me rend sensible au péché. Une autre chose que j'ai vue chez Martin et chez un chrétien qui est vraiment né nouveau, c'est la prière. Il y a un désir de prier. Pourquoi? Parce que j'ai le Fils, j'ai le Saint-Esprit en dedans de moi. Alors, j'ai un Père et je veux prier ce Père-là. L'attitude face à la parole de Dieu, ça, c'est un autre indicateur de quelqu'un qui est vivant, qui a le Fils. La parole de Dieu est l'autorité finale dans sa vie. Ce n'est pas les traditions des hommes, c'est la parole de Dieu. Une autre chose qui fait une différence quand on a la vie, c'est mon prochain autour de moi. Je ne le vois plus pareil. Je ne vois plus le prochain pareil. Il y a une sensibilité face à la souffrance de ceux qui m'entourent. Ce n'est pas de l'indifférence. Une autre chose qui fait une différence dans quelqu'un qui est habité par Christ ou par le Saint-Esprit, c'est l'Église locale. Moi, je n'étais pas un homme religieux avant de naître de nouveau. Hein. L'Église, ça ne me disait rien. Puis, quand Christ a transformé ma vie, l'Église, pour moi, c'est devenu important. C'était pas quelque chose que je mettais à mon horaire quand ça donnait, mais c'est devenu une priorité. Et encore là, je dis ces choses-là, le péché, la prière, la parole de Dieu, le prochain, l'Église locale, ça va varier d'un individu à l'autre. Ce ne sera pas pareil pour tout le monde, mais il doit avoir ces choses-là. Quelqu'un qui me dit, moi je suis chrétien, mais qui pratique le péché, qui la parole de Dieu n'a pas d'importance, l'Église n'a pas d'importance, ben c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Celui qui a le Fils, a la vie. Et si vous n'avez pas la vie, c'est important que cette question-là se règle dans vos vies. Vous le savez, on le sait, si on fait juste aller avec le trafic, là. C'est quoi qui se passe vraiment dans vos cœurs? Moi, je ne peux pas dire comme Jésus, « Oh, je sais que tu passes près de vivant et tu as la vie. » Moi, je ne peux pas le dire. Vous, devant Dieu, vous pouvez. Et si vous savez que ce n'est pas votre cas, alors ce que le Seigneur nous invite ce matin, c'est d'aller à lui et d'accepter de perdre sa vie pour avoir sa vie à lui, de se repentir, confesser nos péchés, les nommer, et dire, Seigneur, je veux ta vie à toi. Tournez vos Bibles dans Jean 5 et au verset 40. Jean 5 et au verset 40. Verset 39 d'ailleurs. Alors Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Le problème, est-ce qu'il est du côté du Seigneur? Le problème est du côté de l'homme, de l'individu. Jésus dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Parce qu'on sait très bien que quand on vient à Christ, c'est plus ma vie, c'est la sienne. Et on ne veut pas. On ne veut pas ça souvent. Et moi, ma prière, c'est que ce verset-là qu'on a lu ce matin, que personne ici, ça soit le cas de personne dans cette salle. Et parce que mon plus grand désir, ma prière cette semaine, c'était ça, c'est que je disais, Seigneur, je te supplie que personne à notre Église n'entende jamais les paroles suivantes de la part de Dieu. Je sais que tu passes près de vivant, mais tu es mort. Je ne veux pas que personne ici entende ça. Les petits et les grands. Prions. Eh bien, Seigneur, quel message que Sarah nous donne ce matin. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Celui qui a le Fils a la vie. Et tu as dit, Seigneur, aux gens de ton époque, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Eh bien, Seigneur, je te prie que tous ici, à un moment donné, tôt ou tard, si ce n'est pas déjà fait, s'il y en a ici que ce n'est pas fait, je te supplie, Seigneur, qu'ils ne remettent pas ça à plus tard, qu'ils viennent à toi, qu'ils confessent leurs péchés, leur orgueil, leur égoïsme, et qu'ils viennent à toi pour le pardon de leurs péchés. Tu as promis, Seigneur, que si on va à toi, tu nous donnes la vie. Que ton Esprit Saint, Seigneur, convainque les gens du péché, de justice, de jugement, et nous tourne vers Christ qui est le remède, qui est le vaccin contre ce mal-là. Et que cette église-là de Casemune ne soit jamais comme Sardes. C'est ma prière. Avoir l'air de quelque chose, mais on ne l'est pas. Je supplie, Seigneur, garde-nous de ça. Garde-nous de l'esprit de Sardes. En ton Fils Jésus-Christ, je te prie. Amen.